le monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du mercredi 27 mars 2024. Malam Bakaye Sagna Junior, fils d'un ancien président de Guinée-Bissau, condamné pour trafic de drogue ici aux États-Unis. Le Nigérien impose des restrictions de voyage à partir du 1er avril aux ministres et autres responsables avec des fonds publics pour une durée de 3 mois.
Pour le président nigérien, l'interdiction de voyager réduirait les coûts de dépenses dans un contexte de déficit économique et une nécessité d'une gestion budgétaire responsable.
Reportage à suivre dans la partie magazine. Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu au téléphone avec les chefs d'État du Mali, du Niger et du Congo en moins de 24 heures. En Tunisie, 4 accusés ont été condamnés à mort pour l'assassinat de l'opposant Chokri Belaïd en 2013. L'actualité américaine, les autorités de Baltimore ont commencé l'opération de récupération des corps de 6 victimes présumées après l'effondrement spectaculaire d'un pont percuté par un porte-conteneur. Ne manquez pas notre passeport ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. Le ministère nigérien de l'Intérieur a affirmé ce mercredi que les États-Unis vont soumettre prochainement un projet sur les modalités de désengagement de leurs soldats dans le pays après la dénonciation par le régime militaire de Niamey d'un accord de coopération avec Washington. Dans un communiqué, Niamey indique que l'ambassadrice des États-Unis, Kathleen Fitzgibbon, a fait cette annonce lors d'un entretien aujourd'hui avec le ministre nigérien de l'Intérieur, le général Mohamed Toumba. Aucune date n'est renseignée sur la question. Ici aux États-Unis, Bakaye Zino, surnom de Malam Bakaye Sagna Junior, fils d'un ancien président de la Guinée-Bissau, a été condamné à plus de 6 ans de prison pour son implication dans un trafic international d'héroïne. Les détails avec Claire Morin-Gibou.
L'annonce a été faite hier par le ministère américain de la Justice dans un communiqué. Malam Bakaye Sagna Junior n'était pas un trafiquant de drogue internationale ordinaire. Il trafiquait de la drogue pour financer un coup d'État. Selon la justice américaine, cet homme de 52 ans organisait un trafic d'héroïne et son importation d'Europe vers les États-Unis afin d'accéder à la présidence de la Guinée-Bissau. Arrêté avec un associé à son arrivée à Dar es Salaam en Tanzanie en juillet 2022, ils avaient été extradés aux États-Unis peu après. En septembre 2023, Malam Bakaye Sagna Junior a plaidé coupable d'association de malfaiteurs en vue de distribuer une substance réglementée à des fins d'importation illégale. Il a été condamné à 80 mois de prison. Élu en 2009, son père, Malam Bakaye Sagna, est décédé au cours de son mandat en janvier 2012. Bakaye Zino avait occupé plusieurs fonctions au sein de son gouvernement, notamment en tant que conseiller économique.
En Centrafrique, une figure de l'opposition, Crépin Mboli Ngouba, a été condamné aujourd'hui à 1 an de prison avec sursis pour diffamation et outrage à magistrat dans un pays où toute voix dissonante est réprimée par le pouvoir du président Faustin Akange Touadéra. En RDC, la justice militaire a accordé la liberté provisoire pour raison de santé à l'opposant Salomon Idi Kalonda, en détention depuis 10 mois, proche conseiller de Moïse Katumbi, candidat malheureux à la présidentielle de décembre 2023. Salomon Idi Kalonda a été arrêté le 30 mai dernier à l'aéroport de Njili à Kinshasa, alors qu'il voulait se rendre à Lubumbashi où il réside. Les présidents maliens, le colonel Assimi Goïta, nigérien, le général Abdourahmane Tiani et russe Vladimir Poutine ont discuté hier au téléphone du renforcement de la coopération dans la lutte contre le terrorisme. M. Poutine s'est aussi entretenu avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso sur l'approfondissement des liens entre leurs deux pays. Le point avec Nani Talani.
Dans leur entretien, le chef du régime militaire à Niamey, le général Abdourahmane Tiani et Vladimir Poutine ont échangé sur la nécessité de renforcer la coopération sécuritaire entre la Russie et le Niger pour faire face aux menaces actuelles, indique un communiqué officiel de Niamey lu à la radio publique nigérienne. Les deux parties ont exprimé leur disposition à activer un dialogue politique et à développer une coopération mutuellement avantageuse dans divers domaines, rapporte le Kremlin. Il ajoute qu'un échange de points de vue sur la situation dans la région du Sahel et du Sahara a également été mené en mettant l'accent sur une coordination des actions pour assurer la sécurité et la lutte contre le terrorisme. D'après le Kremlin, Vladimir Poutine a aussi discuté avec son homologue malien, le colonel Assimi Goïta, pour nouer des liens plus étroits dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, l'agriculture, le secteur énergétique et minier. Le colonel Goïta a remercié Poutine pour les livraisons gratuites de blé, d'engrais et de carburant à la Russie. Par ailleurs, M. Poutine et le dirigeant du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, sont convenus de resserrer davantage leurs liens politiques, économiques et humanitaires. Ces dialogues interviennent dans une période de transition politique majeure au Sahel, où le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont tous confrontés à des violences djihadistes incessantes et ont vu des gouvernements civils renversés par des coups d'État militaires. Ces nations, autrefois sous influence française, ont progressivement délaissé Paris pour se rapprocher d'autres partenaires, tels que la Russie.
En Tunisie, 4 accusés et jugés pour l'assassinat de l'opposant de gauche, Chokri Belaïd, en 2013 ont été condamnés à mort dans le tout premier verdict prononcé ce mercredi. Le point avec Rosine Monizero.
Au total, 23 personnes étaient inculpées pour l'assassinat par balle dans la voiture de Chokri Belaïd, avocat de 48 ans, critique virulent du parti islamo-conservateur Ennahda, à l'époque au pouvoir, tué devant son domicile le 6 février 2013. Le tribunal de première instance de Tunis a également condamné 2 accusés à la prison à perpétuité, a annoncé Ayman Chiba, procureur général adjoint du pôle judiciaire antiterroriste. Des peines de 2 à 120 ans d'emprisonnement ont aussi été prononcées contre d'autres inculpés, tandis que 5 individus ont bénéficié d'un non-lieu. Abdelmajid, le frère de Belaïd, a salué une première bataille gagnée, mais indique toutefois que l'affiliation des condamnés n'a pas été précisée, faisant allusion à Ennahda. De son côté, Ennahda, qui a toujours nié toute implication, a estimé dans un communiqué que les condamnations prononcées mercredi prouvent son innocence. Des djihadistes ralliés au groupe État islamique avaient revendiqué l'assassinat de Chokri Belaïd, ainsi que celui, 6 mois plus tard, du député Mohamed Brahimi, une autre figure de l'opposition de gauche.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les autorités de Baltimore sur la côte est des États-Unis tentent de récupérer les corps des 6 personnes présumées mortes après l'effondrement spectaculaire d'un pont percuté par un porte-conteneur. Les précisions de John Lindon.
Ces 6 personnes faisaient partie d'une équipe d'ouvriers des travaux publics réparant des nids de poules sur le pont autoroutier Francis Scott Key lors de son effondrement mardi vers 5h30 GMT. Mardi soir, les secours ont suspendu les recherches de survivants après 16 heures de quête dans des eaux glaciales qui avaient permis de retrouver 2 rescapés, dont l'un grièvement blessé. Faute d'espoir de retrouver des survivants et face aux conditions difficiles, la phase active de recherche a été suspendue. Pour ce qui est de la reconstruction du pont, Joe Biden s'est engagé à ce que le pont, qui porte le nom du poète auteur des paroles de l'hymne national américain, soit reconstruit aux frais de l'État fédéral, en admettant que cela prendrait du temps. Car l'enjeu est économique, ce pont à 4 voies long de 2,6 km est crucial pour l'économie de la côte est des États-Unis. Et avec un accès au port obstrué par les débris du pont, le transport maritime y est suspendu jusqu'à nouvel ordre, ont fait savoir les autorités. Le port de Baltimore est le 9e du pays en termes d'activité et génère plus de 15 000 emplois.
Israël, États-Unis, les services du Premier ministre israélien ont fait savoir qu'ils aimeraient trouver une nouvelle date pour organiser la réunion consacrée à Rafah, 2 jours après avoir annulé avec fracas les discussions prévues cette semaine sur le sujet, a dit un haut responsable américain ce mercredi. Israël, furieux à cause d'une abstention des États-Unis lors d'un vote à l'ONU, avait décidé lundi de ne pas envoyer comme prévu une délégation à Washington afin de discuter de son projet d'offensive contre la localité du sud de la bande de Gaza. Le ministère de la Santé du Hamas lui a annoncé ce mercredi un nouveau bilan de 32 490 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien le 7 octobre. En 24 heures, 76 morts supplémentaires ont été recensés selon un communiqué du ministère qui fait état de 74 889 blessés en plus de 5 mois et demi de guerre.
Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nathalie Barge.
La fondation Tony Elumelu, soutenant l'autonomisation des jeunes entrepreneurs africains, a annoncé la sélection des start-up pour le programme 2024. La fondation a déjà financé à hauteur de 100 millions de dollars 20 000 entrepreneurs africains qui ont créé plus de 400 000 emplois. 45% de ces bénéficiaires sont des femmes. La TEF va financer 100 jeunes entrepreneurs supplémentaires au Bénin cette année. La compagnie Kenya Airways a annoncé être parvenue en 2023 à un résultat d'exploitation positif de plus de 79 millions de dollars pour la première fois en 7 ans, lui permettant de réduire de 41% sa perte nette à plus de 174 millions de dollars. L'an dernier, la compagnie aérienne kenyane a vu son chiffre d'affaires augmenter de 53% à près d'1,349 milliard de dollars. Fondée en 1977, elle dessert 45 destinations, dont 37 en Afrique. Un sommet pour soutenir la production de vaccins en Afrique et la souveraineté sanitaire du continent se tiendra à Paris le 20 juin. Avec l'Union africaine et l'Alliance du vaccin Gavi, la France accueillera, avec ses partenaires européens, un sommet pour l'équité vaccinale et la production régionale de vaccins en Afrique, indiquait la secrétaire d'État française au développement, Chrysoula Zakharopoulos, lors d'une réunion à Bruxelles.
Place maintenant au sport avec Nanit Alani. Bonsoir Nanit.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Cannes 2025 pour commencer, le Libéria, le Tchad et l'Eswatini se qualifient pour le prochain tour suite au match retour disputé hier.
Le Tchad et l'Eswatini ont effectivement assuré leur place dans la phase de groupe des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 après avoir battu leurs adversaires à l'issue des matchs retour de la phase préliminaire hier. Le Tchad a battu Maurice 1-2 sur le terrain 1 du complexe national sportif de Saint-Pierre. Le Tchad et l'Eswatini seront rejoints par le Libéria et le Soudan du Sud qui ont également progressé malgré les nuls entre le Libéria 0-0 Djibouti au stade Samuel Kanyondoué de Moronvia au Libéria et le nul 0-0 entre le Soudan du Sud et Sao Tomé et Principe au stade municipal de Berkane au Maroc lors des matchs retour également disputés hier. Le Tchad, l'Eswatini, le Libéria et le Soudan du Sud se tourneront désormais vers la prochaine phase des éliminatoires où ils rejoindront les 44 pays exemptés pour la phase de groupe des éliminatoires.
La FIFA menace le Kenya de sanctions pour interférence d'un tiers, en l'occurrence la justice kenyane.
Le Kenya fait face aux sanctions de la FIFA à la suite de l'échec de l'Assemblée générale annuelle de la Fédération kenyane de football. La FIFA assure qu'elle n'hésitera pas à imposer de graves sanctions à ce pays d'Afrique de l'Est si l'ingérence d'un tiers continue de retarder le processus d'organisation des élections plus tard cette année. La fédération devait tenir une assemblée générale annuelle le 16 mars, mais celle-ci a été annulée après l'obtention par le journaliste sportif Milton Yakundi d'une ordonnance de la Haute Cour de Mombasa contestant la légalité de la fédération pour convoquer cette réunion. Alors que les acteurs du football attendent la décision, la FIFA avertit que si les affaires ne se déroulaient pas comme d'habitude, si la fédération kenyane ne procédait pas à son assemblée et ne fixait pas une date pour les élections, la FIFA estimera qu'il s'agit d'une nouvelle tentative d'un tiers visant à empêcher la tenue de l'assemblée générale annuelle, ce qui obligerait l'institution à porter l'affaire à l'attention des instances compétentes pour examiner d'éventuelles sanctions conformément au statut de la FIFA.
NBA, les Lakers éteignent les Bucks. Après un match fou, les Warriors retrouvent le succès.
Les Lakers de Los Angeles ont remporté un match fou après deux prolongations face aux Milwaukee Bucks et les Warriors ont retrouvé la victoire hier en NBA. Bien que menés de 19 points à deux reprises, les Lakers ont fini par renverser les Milwaukee Bucks 128 à 124 après deux prolongations. Privés de LeBron James au repos pour ménager une cheville, les Lakers ont pu compter sur un immense Anthony Davis, auteur de 34 points et 23 rebonds, avec un temps de jeu rare de près de 52 minutes. Giannis Antetokounmpo, qui a raté deux lancers cruciaux en fin de deuxième prolongation, a cumulé 29 points, 21 rebonds et 11 passes pour un triple double.
Page de sport VO Afrique, signé Nanit Salani.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui, c'est VOA Afrique. Jean-Roger Dion de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le président nigérian Bola Tinubu imposera à partir du 1er avril une interdiction de 3 mois aux ministres et autres responsables gouvernementaux de voyager à l'étranger avec des fonds publics. L'objectif est de réduire les dépenses publiques consacrées au voyage à l'étranger, une décision qui suscite des réactions mitigées au sein de la population. Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Pour le président nigérian, l'interdiction de voyager réduirait les coûts de dépenses dans un contexte de défis économiques et une nécessité d'une gestion budgétaire responsable. Le président Bola Tinubu et son administration sont critiqués par certains pour leurs fréquentes visites à l'étranger. Mais M. Tinubu n'a pas précisé s'il réduirait ses propres voyages.
Réaction des Nigérians dans les rues de la capitale.
C'est une bonne nouvelle. Dans tout le pays, les gens se plaignent du coût de la gouvernance au Nigeria. Et honnêtement, le coût de la gouvernance au Nigeria est trop élevé.
Toutes ces histoires que nous entendons depuis longtemps, je me souviens même le gouvernement précédent. Quand ils sont arrivés, ils ont dit qu'ils supprimaient les voyages à l'étranger pour se faire soigner et autre chose. Toutes ces choses, mais en fin de compte, ce sont des mensonges.
Le président et ses représentants ont par le passé défendu ces voyages comme étant essentiels pour réduire les problèmes économiques qu'il est accusé d'ignorer. La prise en charge de plus de 400 personnes pour assister à la conférence sur le climat COP28 à Dubaï en novembre dernier a été particulièrement controversée, suscitant la colère en particulier sur les plateformes de médias sociaux.
Rebecca Joshua soutient la décision du président.
Tout cet argent, le gouvernement l'utilisera pour d'autres choses comme les routes, les hôpitaux. Comme moi, je suis malade. J'achète mes médicaments. Ils sont très chers. J'ai des problèmes cardiaques. J'achète mes médicaments tout le temps quand je vais à l'hôpital. Sinon, ils disent qu'ils n'ont pas de médicaments.
Depuis son investiture en mai 2023, Bola Tinubu a effectué plus de 15 voyages à l'étranger. Le président nigérien aurait dépensé au moins 3,4 milliards de naira, soit 2,2 millions de dollars en voyages nationaux et étrangers au cours des 6 premiers mois de sa présidence, selon les médias locaux. Certains Nigériens estiment qu'il lui sera donc difficile de faire appliquer sa décision.
Chika Kalou est un homme d'affaires.
Faire des annonces ne coûte rien. Il l'a dit, mais est-ce réalisable? Il y a beaucoup de gens dans le gouvernement qui dépendent des allocations. Ils veulent voyager même s'ils n'ont rien à faire. Ils veulent voyager à cause de l'argent qui est en jeu. Donc, si le président ou un autre officiel du gouvernement dit cela, ce n'est qu'une déclaration politique.
Le Nigeria traverse l'une de ses pires crises du coût de la vie depuis des décennies, une situation qui a suscité une colère généralisée. Le blocage de 3 mois des déplacements officiels des représentants du gouvernement est la dernière tentative de M. Tinubu pour contrer la réaction de l'opinion publique. En janvier, le président nigérien a annoncé une réduction d'environ 60% de la taille des délégations officielles en mission, y compris des réductions dans son propre entourage. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Au Bénin, l'histoire politique a été marquée par la lutte des femmes pour se faire une place dans le milieu politique. Pour certaines et pour d'autres, il s'agit de se battre pour accéder à des postes de responsabilité. Après plus de 30 ans de processus démocratique, le chemin paraît encore long, même s'il existe encore plusieurs motifs de satisfaction dans la lutte de ces pionnières qui ont rendu possible l'implication des femmes dans la politique au Bénin. Le reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
L'histoire politique du Bénin a connu des femmes engagées qui ont dû lutter de toutes leurs forces pour se faire un nom. C'est le cas de Ferozine Viera Soglo, connue pour sa longévité à l'Assemblée nationale, mais qui a dû en baver selon les interviews qu'elle a laissées pour la postérité.
J'ai pris l'habitude d'être matraquée et cela ne me gêne plus du tout. Car avant de me lancer dans la politique, j'ai eu la chance d'avoir eu un grand homme qui me considérait comme sa fille, le président Félix Oppo-Boigny. Il m'a dit qu'il veut faire la politique. Ta peau là, elle doit être une peau de pachyderme. Rien. Mais rien ne doit atteindre.
Même si elle n'a jamais aspiré à diriger le Bénin, son courage politique a ouvert la voie à de nombreuses femmes, parmi lesquelles Marie-Élise Guaido, avocate de profession, candidate malheureuse à plusieurs élections présidentielles. Pour elle, l'égalité d'accès aux fonctions publiques n'est pas honnête.
Aujourd'hui, je vois des députés qui disent, oui, la femme. Eux-mêmes, ils ont fait en leur sein une proposition de loi sur l'égalité d'accès aux fonctions publiques entre hommes et femmes. Mais ils sont en pleine contradiction aujourd'hui avec tout ce qu'ils font. Moi, je suis tentée même de dire, est-ce qu'ils sont vraiment sincères avec cette question sur la constitutionnalisation de la représentativité de la femme? Parce que nous sommes des champions en violation des tests, en non-application des tests. Est-ce que ce n'est pas tout simplement de la poudre aux yeux, encore une fois?
Après plusieurs tentatives infructueuses aux élections présidentielles, Marie-Élise Guaido se retira complètement de la vie politique pour se consacrer à la sensibilisation des femmes sur le respect de leurs droits. Elle va même céder sa place à Célestine Zanou qui, contre toute attente, se désiste de l'élection présidentielle de 2016 alors qu'elle portait l'espoir de nombreuses femmes. Elle avait fustigé à l'époque le comportement des partis politiques qui n'avaient Dieu que pour l'argent.
Ce qu'il faut fondamentalement retenir, c'est le désistement, la sortie de la course. C'est une orientation que nous venons de vous donner pour que vous compreniez le sens de l'acte qui a été posé.
Cette déception n'a pas pour autant décourager les femmes qui ont silencieusement creusé leur sillon en défendant des causes nobles, comme par exemple Reki Amadougou, qui s'est annoncée dans un combat contre la révision de la Constitution à travers le vocable « Touche pas à ma Constitution ».
Il n'y a rien de grand, il n'y a rien de beau, il n'y a rien, je dirais, de gigantissime qu'on puisse réaliser pour soi-même, pour sa famille, pour sa communauté, qui ne soit d'abord induit par l'enthousiasme. Vous devenez ce que vous pensez être. Quel que soit ce qu'on dira de vous, quel que soit ce qu'on pensera de vous, vous serez ce que vous avez pensé être. Vous serez qui vous pensez être.
Aujourd'hui, le sacrifice consenti par les pionniers semble porter ses fruits, même si la lutte reste d'actualité. De sa position de vice-présidente du Bénin, Mariam Tchabitalata pense que les femmes ont des raisons d'être fières.
Ça fait longtemps que je milite sur le plan politique, mais j'ai jamais pu bénéficier d'autant de reconnaissance de mon combat, de ma lutte que ces dernières années, sans rien dire, sans chanter qu'on va faire la promotion de la femme. Pour une fois, dans la gouvernance actuelle, la femme a été hissée et très très haut.
Le principe d'une femme capable de s'incruster dans la gestion publique, qui plus est politique, où tous les coups sont permis, n'est pas encore assimilé par tous les Béninois. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Rendons-nous à présent au Burkina Faso pour vous faire découvrir cette nouvelle initiative qui vise à promouvoir la paix, l'union, la tolérance et le vivre ensemble dans un contexte de crise sécuritaire. Des jeunes ont décidé d'organiser une rupture collective entre musulmans et chrétiens en ce temps de jeûne musulmans et de carême chrétien. Une initiative bien appréciée par les participants de Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Il est juste passé de quelques minutes, l'imam du jour donnant le ton marquant la rupture pour les musulmans. Mais ici, il n'y a pas seulement que des musulmans, aussi des chrétiens catholiques, protestants et notabilités coutumières. Si le jeûne musulman et le carême chrétien coïncident, il fallait aussi penser à une rupture collective entre ces différentes confessions religieuses. Ici, il n'y a pas de barrière religieuse. Chacun pratique sa foi dans le respect de celle de l'autre. Musulmans comme chrétiens trouvent l'initiative intéressante. Abdelkader et Nicole saluent l'initiative.
J'ai décidé de venir à cette rupture collective parce que bon, c'est très intéressant de voir chrétiens, musulmans. Ça veut dire qu'on est tous pareils. Avant de mettre les religions, ça veut dire qu'on peut tous vivre ensemble.
C'est une très belle initiative. Je suis très contente. Voilà. C'est ma première fois de participer, mais vraiment, c'est très important.
Amos Dongnaba est chrétien protestant. Il a fait le déplacement pour lui aussi soutenir le vivre ensemble.
Nous savons qu'au Burkina, il y a plusieurs, j'allais dire, confessions religieuses. Et ces confessions religieuses vivent dans une parfaite harmonie.
L'idée de la rupture collective est portée par de jeunes comme Mamadi Ouédraogo. Ils estiment qu'au-delà des religions, le Burkina doit continuer à exister.
L'idée, c'est vraiment se retrouver au-delà de nos divergences, au-delà de notre diversité ou de notre appartenance religieuse. C'est dire que nous sommes des Burkinabés. Le Burkina, c'est notre pays. Nous sommes une famille, travaillons main dans la main, restons ensemble. On est d'abord Burkinabés avant d'être religieux.
Au moins 1000 personnes ont participé à cette rupture collective entre musulmans, chrétiens ou coutumiers. L'activité qui n'est qu'à sa deuxième édition se poursuivra les prochaines années, selon ses initiateurs, dans le but de toujours promouvoir la paix et la tolérance religieuse. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum cette semaine. Gros plan sur l'élection présidentielle au Sénégal et la victoire reconnue dès le premier tour de l'opposant Bassirou Diomaye Faye, décrit comme le plan B du charismatique Ousmane Sonko. Est-ce un véritable séisme politique qui vient de se produire dans ce pays, réputé pour sa stabilité en Afrique de l'Ouest? Quels sont les défis qui attendent celui qui va devenir le plus jeune chef de l'État sénégalais? Quel rôle pour son guide Sonko? En quoi leur vision pour un panafricanisme de gauche pourrait-elle redéfinir les relations de Dakar avec ses partenaires internationaux? Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
De hauts responsables de l'administration Biden ont exhorté le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a renoncé à son projet d'invasion de la ville de Rafah dans le sud de Gaza, où plus de 1,4 million de civils palestiniens cherchent à se mettre à l'abri. Ceci alors que les États-Unis et Israël montrent des signes de divergence sur la stratégie israélienne à Gaza. Suivons cela dans ce reportage de Patsy Widakuswara, chef du bureau de la Maison-Blanche, un récit de John Lindon.
Au moins 16 personnes ont été tuées lorsqu'une frappe a touché un immeuble résidentiel à Rafah lundi, alors qu'Israël poursuit sa campagne militaire aérienne sur la ville la plus méridionale de Gaza. Les dirigeants israéliens veulent aller plus loin en prévoyant une offensive terrestre, mais les responsables américains les implorent de ne pas le faire. Lloyd Austin, secrétaire à la Défense.
La sécurité du 1,5 million de civils palestiniens à Rafah est également une priorité absolue pour les États-Unis. Nous continuons à partager l'objectif de voir le Hamas vaincu. Nous discuterons donc d'approches alternatives pour cibler les éléments du Hamas.
Lors de sa rencontre avec le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a également exhorté Israël à autoriser davantage d'aide humanitaire à entrer alors que la famine menace les populations à Gaza. Le message des États-Unis sur l'aide et l'offensive à Rafah a été transmis à M. Gallant par d'autres représentants de l'administration, dont le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et Jack Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Il n'est pas certain qu'Israël tienne compte de cet avertissement. M. Gallant a déclaré qu'il souhaitait que les États-Unis accélèrent les transferts d'armes vers Israël.
Nous discuterons également de questions stratégiques et de l'importante coopération entre nos établissements qui garantira l'avantage et les capacités militaires d'Israël.
Les États-Unis fournissent à Israël une aide de 4 milliards de dollars par an, dont 3,3 milliards de dollars qu'Israël doit utiliser pour acheter des armes américaines. Brian Finnegan, conseiller principal pour le programme américain à l'International Crisis Group, joint par Skype.
Dans le meilleur des cas, les États-Unis utiliseraient leur influence considérable, à la fois unilatérale et multilatérale, pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu.
Lundi, les États-Unis ont usé de leur influence diplomatique en s'abstenant à l'ONU, ce qui a permis au Conseil de sécurité d'adopter une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat et la libération des otages détenus par le Hamas. Mais jusqu'à présent, le président Joe Biden n'a pas indiqué sa volonté de conditionner l'aide militaire, malgré les protestations l'appelant à mettre fin à son soutien à Israël.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.